Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je voudrais peut-être vous entretenir de deux, trois choses avant de passer la parole aux conférenciers. La première chose que je voudrais vous dire, c'est la joie que j'ai, mais à laquelle tous mes collègues s'associent, de savoir Madame Rachène Hachette, dont je vous avais parlé il y a un mois, libre, libérée, en tout cas sortie de prison. Elle a pu retrouver son foyer et c'était le 16 novembre. Alors je voudrais vraiment féliciter toutes les personnes qui se sont mobilisées et communiquer la joie qu'on éprouve à cette nouvelle, même si on n'oublie pas qu'en Syrie, la situation reste évidemment extrêmement difficile. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, je reçois, je crois que c'est même un peu un scoop ici, une annonce dans le sens que ça n'a pas encore vraiment circulé entre nous, mais vous dire que donc l'association de la cause freudienne à Liège organise ce samedi 10 décembre une conférence animée par Patricia Bosquin-Carros, donc qui est psychanalyste de l'école, analyste de l'école. Elle va nous parler d'une version féminine de l'amour et le désir de l'analyste. Ça commence à 10h30 à Liège et ça se poursuit l'après-midi. Donc vous pouvez éventuellement, si vous ne recevez pas les informations régulièrement, vous pouvez m'envoyer un mail, je ferai suivre l'information. Alors beaucoup plus proche de nous, géographiquement en tout cas, nous avons peut-être pas tout à fait dans les dates, mais ce n'est pas si loin que ça, nous avons la chance d'avoir ce 7 janvier à Mons, une conférence qui est organisée par la section clinique, l'antenne clinique de Mons, et à laquelle, au fond, les participants actifs, je veux dire, dans cette antenne clinique, vont venir un peu témoigner, puisque vous savez qu'on est dans l'année où on fête où on évoque les 30 ans du décès de Lacan et donc de la vie de Lacan. Eh bien, nous allons venir témoigner un peu de notre rapport à Lacan, mais à un Lacan vivant, c'est-à-dire celui qui nous anime, selon qu'on peut le considérer comme enseignant, comme analyste ou analysant, puisque Lacan a été tour à tour et parfois en même temps les trois à la fois. Et donc nous viendrons vous dire un peu quel est notre lien à Lacan, à ce Lacan vivant. Ça se passera le 7 janvier, donc vous pouvez déjà bloquer vos agendas, à la Maison de la Folie à Mons, à 15h. Et les informations suivront par mail. La même chose, je transmettrai pour tous les participants que ça intéresse l'information. Alors la dernière fois, qui était la première, nous avons accueilli Philippe Lebois et Guy Poblum, qui se sont basés sur les séances 1 et les séances 4 du séminaire. Et aujourd'hui, nous allons entendre successivement Dominique Holvoet, qui nous parlera sous le titre « Une pulsion n'a rien à voir avec un instinct ». C'est une petite phrase qui vient de la séance 5 du séminaire L'Angoisse. Alors Dominique Holvoet est psychanalyste à Tournai. Il est directeur thérapeutique au Courtil. Il est aussi celui qui accueille tous les stagiaires du Courtil. Je dis ça pour les étudiants ou pour les personnes qui s'engagent dans cette voie, parce que c'est en général Dominique Holvoet qu'on rencontre au départ de ce parcours pour venir participer à cette pratique à plusieurs de l'institution. Et il est également enseignant à la section clinique de Lille. Alors, nous entendrons dans la deuxième partie Béatrice Brault, qui est à ma gauche, sous le titre « Il est faux de dire que l'angoisse est sans objet », petite phrase sortie de la séance 6, page 91. Et Béatrice Brault est psychologue clinicienne, elle travaille à la Maison de la Petite Enfance à Valenciennes et elle reçoit également en consultation privée en tant que psychanalyste à Mons. Alors, je vais commencer en donnant la parole à Dominique.
Bien, donc je vais. On entend bien, oui. Je vais essayer en 30 minutes de vous présenter cette leçon 5, en espérant que certains ont déjà eu l'occasion de la lire, et de la relire, parce qu'il faut la lire plus d'une fois pour essayer d'en attraper quelque chose. Donc, une pulsion n'a rien à faire avec un instinct. Hein, c'est ce que déclare Lacan au milieu de cette leçon. Et c'est la phrase que Philippe Elbois a été pêché comme axe du commentaire que j'ai à vous faire donc aujourd'hui. Une pulsion n'a rien à faire avec un instinct. Alors posons d'emblée ceci, qui n'est pas dans la leçon, qu'au fond l'instinct, je le définirais enfin comme un savoir qui est déjà là. Un savoir déjà là que l'instinct, donc c'est un savoir déjà là, là où la pulsion participe plutôt d'un non-savoir. Disons le mot, puisqu'il s'agit du titre de la leçon, il s'agit d'une tromperie. La pulsion plutôt du côté de la tromperie et l'instinct du côté du savoir, d'un savoir déjà là. L'instinct désigne un savoir déjà là qui permet à l'individu de s'orienter, d'avoir le mode d'emploi, par exemple pour le nourrissage. Bon, l'instinct, c'est un mode d'emploi. Que ce soit pour le nourrissage, la défense du territoire, la reproduction, et toutes sortes de choses par lesquelles l'animal s'oriente. L'instinct comme mode d'emploi du nourrissage répond aux besoins de s'alimenter. Par contre, la pulsion orale, ça c'est tout autre chose. La pulsion orale, toutes les perturbations de la fonction alimentaire le montrent à souhait, la pulsion orale, c'est un mode de jouir. Et donc, je fais cette rapide introduction pour poser le cadre de la leçon et de la phrase que Philippe Elbois nous donnait comme axe de la leçon, que instinct et pulsion, vraiment, c'est deux choses complètement distinctes. L'instinct du côté du savoir déjà là, du mode d'emploi, la pulsion du côté d'un mode de jouir. Ça donne, au fond, des conduites, si je puis dire, enfin, complètement différentes. Hein. Là où l'instinct va vous conduire directement à l'objet de satisfaction, la pulsion, ça va être des contournements complexes. Alors, j'imagine que la fois précédente, lors de la première séance, au fond, Philippe Elbois et Guy Poblom vous ont donné un peu l'axe du séminaire. Donc je passe cette partie parce qu'il faut que je tienne mon timing. Alors si on en vient à la leçon, au fond dans la leçon vous avez lu comme moi que il s'agit dans cette leçon d'une chasse, hein, et une chasse suppose qu'il y a un chasseur, qu'il y a un fusil, enfin en tout cas une arme, et qu'il y a une proie. Et on se demande d'ailleurs quand on lit la leçon mais de quoi Lacan parle quand il parle de cette chasse, qui est le chasseur, quel est le fusil, quelle est la proie. Alors je propose ceci pour nous orienter. Au fond, le chasseur, c'est l'autre, le grand autre, avec sa demande. Enfin, tantôt l'autre qui se présente avec sa demande, c'est-à-dire l'autre qui veut quelque chose, voire l'autre qui se présente avec sa jouissance, ou l'autre avec son désir. Lacan décline ces différents modes que vous connaissez bien de la demande de l'autre, la jouissance de l'autre et le désir de l'autre. Ça, c'est le chasseur. La proie, c'est le sujet. Le sujet comme est barré, comme le définit Lacan, c'est-à-dire le sujet dans son état de manque à être. C'est une façon dont Lacan a de parler du sujet, au fond, comme d'un vide, d'un manque à être, ce qui suppose donc un appel à l'être. Combler ce manque. Donc le S barré, c'est le sujet avec son manque. Voilà notre proie. Et l'arme du crime, le fusil, eh bien c'est le signifiant. C'est l'introduction du signifiant. C'est ce qu'il faisait dire à Lacan dans son premier séminaire que le signifiant défense a fait plus de mal aux éléphants que le fusil. Le signifiant, c'est une arme, c'est incisif, ça percute. Ça percute quoi? Ça percute le corps et ça a des effets. Alors, la première chose que Lacan fait valoir, c'est que lorsqu'on essaie d'attraper l'angoisse par l'expérimentation, on élude, on écarte, on ne tient pas compte d'une dimension pourtant toujours présente, qui est celle de la présence de l'autre, l'autre avec un grand A. Dès que l'on commence à essayer d'expérimenter, Au fond, on essaie de faire comme s'il n'y avait pas d'autre. On essaie, par toutes les façons, il y a d'ailleurs une méthodologie pour ça, d'écarter la présence de l'autre. Et au fond, Lacan montre, par toute une série d'exemples, de contournements, etc., que, au fond, l'autre est toujours là, est toujours déjà là, quoi que fasse l'expérimentateur. Autant pour le chien, qui montre évidemment à quel point le chien montre à quel point il est sensible à la présence de l'autre, surtout si l'autre est son maître ou s'il ne l'est pas, mais autant pour le chien que pour la sangsue, qui bien sûr, me direz-vous, ne sait rien, la sangsue, de cette présence. Mais qui néanmoins, dans l'expérimentation, est prise dans le calcul. Dans l'expérimentation, même la sangsue, l'épinoche, enfin tout ce que vous voulez, est prise dans le montage expérimental opéré donc par l'autre. Il y a du calcul, il y a un dispositif, et donc il y a de l'autre. C'est ça l'idée que Lacan amène en disant il y a toujours de l'autre préalable, et c'est ce qu'occulte, ce qu'oublie, ce que veut effacer l'expérimentation. Et vous savez à quel point l'expérimentateur cherche à effacer toute trace de l'autre. C'est-à-dire, au fond, in fine, au fond, toute trace de ce que nous appelons le sujet. Parce que les deux vont ensemble, cet autre et le sujet dans son enquête que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire d'effacer qui a cette dimension dans l'affaire et, au fond, de fonctionner comme si tout ça, au fond, n'était que de l'ordre d'un calcul dont... enfin, d'un calcul à somme nulle, si je puis dire. Un calcul sans reste. Bon. Quoi qu'il en soit, pour la sangsue, pour le chien, et même pour l'homme, il y a toujours un champ où, de ce qui nous constitue, puisque j'évoquais que la sangsue de tout ça n'en savait rien, au fond, pour chacun, le chien ou l'homme, comme la sangsue, il y a toujours un champ où, de ce qui nous constitue, nous ne savons rien. Il n'y a pas de sujet, au fond, transparent à sa connaissance, si je puis dire. Autrement dit, que nous n'en sachions rien ne veut pas dire qu'il n'y a nulle incidence de ce champ dont nous ne savons rien sur ce qui nous constitue. Donc il y a là un savoir insu, qui néanmoins n'est pas sans incidence sur ce qui nous constitue et donc ce qui fonde ou ce qui cause notre destin. Et comme vous savez, pour la psychanalyse, ce savoir insu, vient en place de cause. Et ce que nous savons de nous-mêmes, donc il y a la part que nous ne savons pas, enfin en tout cas qui est insu, qui peut éventuellement s'éclairer par le travail analytique. Et puis il y a tout ce que nous savons de nous-mêmes, comment on peut se définir, ce que Anne a fait tout à l'heure en essayant de dire qui j'étais ou qui était Béatrice Brault. Bon, ça, au fond, ça relève d'une méconnaissance. C'est-à-dire, vous ne savez pas grand-chose de plus de moi, de ce que je suis, à partir de cette définition, à partir de ce qu'elle a dit. Ça relève, in fine, d'une méconnaissance, et c'est pour cela qu'à l'occasion, on commence une analyse. Parce qu'on veut en savoir un petit peu plus. En tout cas, lorsqu'on s'aperçoit que ce qui nous assure de nous-mêmes est, enfin, un peu plus oscillant. Je suis professeur d'eux, je suis, enfin, tout ce que vous voulez, décliner tous les titres, puis à un moment donné, il y a quelque chose dans la vie qui fait que ça vacille. Je serai bientôt président de la République, et puis, patatras, on se ramasse, comme c'est arrivé à notre ami, là, récemment. Enfin, notre ami... Bon, donc, enfin, il y a quelque chose qui oscille, et qui fait que, de toute cette représentation du côté de la... enfin, de tout ce par quoi l'on croit se connaître, au fond, tout ça relève d'une certaine méconnaissance qui, à l'occasion, peut vaciller, et c'est ce qui fait que, à l'occasion, on entre en analyse. tout ça, et j'avais repris les mots de la patiente que certains d'entre vous ont entendu vendredi à la présentation de Bon Secours, dans l'entretien qu'elle avait eu avec Philippe Elbois, où elle disait « il y a des choses, elle disait pas oscillantes, elle disait futiles, gratuites ou démodées ». Enfin, pour dire que son monde s'était au fond décousu lorsqu'elle s'est aperçue que son doctorat qu'elle était en train de préparer relevait de choses futiles, gratuites ou démodées. Enfin, c'était une présentation, pour dire, très enseignante sur ce moment où quelque chose, au fond, dans l'existence vacille. Et là, on avait évidemment toute l'histoire qui suivait, enfin, et comment elle a essayé de se rétablir une fois que ce savoir-là lui est apparu comme futile, gratuit ou démodé. Alors, bon, je ne développe pas plus loin tout ça. Enfin, j'essaie de faire résonner la dimension de la méconnaissance de ce que nous croyons connaître de nous-mêmes. Je dirais simplement que c'est parce que nous tenons l'assurance de nous-mêmes, d'abord d'une expérience spéculaire, c'est en tout cas ce que Lacan démontre avec son fameux stade du miroir, c'est parce que ce que l'on appelle l'assurance de soi, on la tient initialement, fondamentalement, du stade du miroir, que cette assurance est en même temps méconnaissance, est en même temps tromperie, car elle est toujours suspendue à la parole de l'autre qui doit venir authentifier cette reconnaissance. Chacun a en tête ce moment de jubilation dans le stade du miroir où l'enfant, se reconnaissant dans le miroir, au fond, reçoit la parole de l'autre qui authentifie que c'est bien lui là, en le nommant de différentes façons. Alors, évidemment, on entre dans un ordre de difficulté avec ce séminaire qui est très grand. J'avance pas à pas, j'essaie de faire résonner ce dont il s'agit. J'espère que je pourrai faire entendre quelque chose. Donc la psychanalyse, de cette façon-là, renonce à considérer le sujet comme transparent à sa connaissance. Au fond, il n'y a pas de « connais-toi toi-même » qui vaille. D'ailleurs, Lacan disait qu'il les conduisait, ceux qui, au fond, venaient en analyse pour se connaître mieux eux-mêmes. La psychanalyse renonce à considérer le sujet comme transparent à sa connaissance, car ce qui vaut, c'est ce qui ne trompe pas. Comme on l'entendra avec l'intervention de Béatrice Brault à propos de la leçon suivante. Nous, on est dans le chapitre qui s'appelle « Ce qui trompe ». Ce qui vaut pour la psychanalyse, c'est l'autre dimension, c'est ce qui ne trompe pas. Je ne déflore pas plus le sujet. En tout cas, c'est pour vous faire entendre qu'il n'y a donc pas de sujet transparent en lui-même, de sujet qui puisse être appréhendé par ses coordonnées imaginaires, même avec l'appui aujourd'hui de Facebook, du déferlement d'images de soi qui scintillent au firmament de l'Internet. Il n'y a pas non plus de sujet qui puisse être totalement appréhendé par ses coordonnées symboliques. On sait combien l'écrivain écrit finalement toujours le même livre et que s'il attrapait le point de bouclage de son écriture, eh bien il ne pourrait tout simplement plus écrire un livre de plus, et même plus écrire du tout. Donc, que ce soit du côté des coordonnées imaginaires ou des coordonnées signifiantes, symboliques, au fond, il y a quelque chose qui échappe. C'est d'ailleurs autour de ça que tourne donc l'écriture de l'écrivain, ce quelque chose qui échappe. Il y a de l'inappréhendable. Et cette dimension de l'inappréhendable se présente comme étrangeté, comme de l'ordre de ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, l'unheimlich. Il y a ainsi des moments d'apparition d'un objet, mais d'un objet, il faut bien dire, très particulier, dont j'ai la charge d'essayer de faire un peu aujourd'hui, faire résonner l'existence, si je puis dire. Donc d'un objet, je dirais, non situable, qui est une sorte de résidu non imaginé du corps. J'évoquais le stade du miroir tout à l'heure. L'enfant se voit dans son orthopédie, il voit le corps dans son entièreté, dans sa totalité. Il s'appréhende comme déjà tenant debout alors qu'il est encore très oscillant. Enfin bon, c'est ça le stade du miroir. Eh bien, de cette image-là, qui ensuite, au fond, lui donnera sa vision du monde, qui est toujours une vision anthropomorphique, du fait que, au fond, la première réalité qui se présente à lui, c'est un corps, le sien, eh bien, de cette image du corps, quelque chose échappe. Quelque chose n'est pas situable. Quelque chose, au fond, est à côté et de l'ordre du non spécularisable. C'est ce dont parle tout ce séminaire. Donc ce que je raconte là, vous allez encore l'entendre de toutes sortes de façons. On va regarder ça, comme disait Jacques-Alain Miller samedi à Lille, on va regarder ça comme un solide, c'est-à-dire sous ces différentes faces, pour bien saisir de quelle vérité tout ça relève. Bon. Donc, c'est là, dans cette part non spécularisable, que réside l'objet de l'angoisse. Et Lacan fait valoir que dans ces moments d'apparition de l'étrange, eh bien, il y a quelque chose qui veut. Vous pourrez lire ces références aux travaux notamment de Goldstein et les travaux de Jones, qui servent à faire valoir, donc l'ensemble de ces travaux, enfin ces références-là que Lacan utilise, servent à faire valoir que c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut que l'étrange surgit. Pour le dire autrement, il y a, au-delà de la nécessité instinctuelle, il y a une demande autre, une exigence autre. Donc la nécessité instinctuelle, chacun saisit bien, une certaine appétence par exemple, mais derrière l'appétence, il y a donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la pulsion orale, et ça, c'est une exigence autre, d'un autre ordre, qui au fond fait émerger une opacité, une étrangeté. Dans ce qui se présente d'angoissant, il y a une demande qui apparaît comme demande de l'autre. C'est-à-dire cette dimension de « il me veut quelque chose ». Voir dans l'angoisse du cauchemar, une jouissance de l'autre apparaît, est en jeu. Il veut jouir de moi. Mais le signifiant de cette éprouvée reste opaque, énigmatique. Que me veut-il ? Voilà donc présenté le fameux chasseur de la chasse. Je dirais que ce que veut le chasseur, ou ce que le sujet s'imagine qu'il veuille, c'est sa subjectivité même. Ce que le sujet s'imagine que le chasseur veut, que l'autre veut, c'est sa subjectivité. Lacan dira dans son texte, dans le texte Subversion du sujet, il dira ce que le sujet s'imagine que l'autre veut, c'est sa castration. Au fond, ça dit la même chose. Il en veut à sa subjectivité. Vous voyez que c'est profond. Enfin, je veux dire profond au sens, quand j'évoquais tout à l'heure l'expérimentateur qui essaie d'effacer toute trace de la subjectivité, eh bien, ça a rapport avec précisément notre objet. Cet objet-là, l'objet dont je parle, qui est que précisément, c'est font par ce bout-là de l'étrange, de l'opaque, etc., qu'apparaît, au fond, la subjectivité, en tant que c'est ce à quoi l'autre toucherait, enfin. Que c'est ce que l'autre vous prendrait, votre subjectivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'autre veut ainsi attraper ? Eh bien, ce que l'autre a pu attraper du sujet, c'est sa part signifiante, sa part de représentation, qui est représentable par les coordonnées du symbolique, par le langage. C'est de ce fait, le sujet, c'est un représenté. Bon, je devrais développer ça pour être plus précis, hein, mais enfin, ça, je dois aller vite. Du fait qu'il est toujours un représenté, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que veut dire que le sujet est un représenté ? C'est dire qu'il y a tout un discours qui le précède, avant qu'il ne vienne au monde. Et déjà, il est là, parce qu'on parle de lui. C'est ça que veut dire le sujet, d'abord un représenté. Hein ? Il est représenté par un signifiant. C'est la définition même du sujet. Et au fond, à ce titre, le névrosé est toujours là un peu par procuration. Le névrosé, il a toujours ce côté « c'est pas moi, c'est l'autre ». Enfin, un « je n'y suis pour personne ». Un « ah, je ne savais pas ». Catastrophe, « je ne savais pas ». J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait pour. Et d'ailleurs, cette dimension, au fond, névrotique, de lâcheté névrotique, fait fonder à Lacan son éthique en disant que, vous connaissez la formule peut-être, que l'erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable. Ça, c'est vraiment, ça vise le névrosé dans son côté, toujours être là par procuration. C'est pas moi, j'y étais pas, j'ai voulu bien faire et pourtant patatras, c'est la catastrophe, etc. Donc, vous cogiterez ça, l'erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que le sujet a à se faire responsable de son inconscient. L'analyse, une psychanalyse lacanienne, ça amène à ça. Ça amène à ça, c'est bien moi. Ce qui est quand même très différent du trop peu pour moi. Ça, c'est bien moi, ou c'est tout moi, ça. C'est à ce point-là, au fond, que de pouvoir se reconnaître dans ces achoppements, dans ces prises de pied dans le tapis, de pouvoir s'y reconnaître, c'est tout moi ça. Donc le sujet, hein, c'est tout moi ça, d'avoir oublié mes lunettes aujourd'hui pour vous parler, par exemple. Bon, donc le sujet est représenté, il est représenté par le signifiant. Alors, faisons bien raisonner cette affaire en distinguant clairement le signifiant du signe. Hein, on a là deux petites définitions dans la leçon qui sont impeccables pour arriver à attraper cette affaire du le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, qui est la formule qu'on vous répète à longueur de leçon lacanienne. Là, on a, au fond, avec la distinction signe-signifiant, je trouve qu'on a un éclairage clair. Un signifiant, c'est ce qui représente un sujet donc pour un autre signifiant, alors qu'un signe, ça ne représente que quelque chose pour quelqu'un. Vous ferez raisonner ça et ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas tout de suite, je ne peux pas le développer. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de signifiant sans sujet. Que le signifiant nous donne une trace du sujet. Comment cela ? Eh bien, cette trace du sujet devient signifiante. N'est plus un pur signe dès le moment où elle donne l'indice qu'il y a un sujet à cette trace. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de signifiant sans sujet. C'est que la trace du sujet, au fond, si c'est d'un sujet dont il s'agit, elle est signifiante dès le moment où cette trace donne l'indice qu'il y a un sujet à cette trace. Et ce qui donne l'indice qu'il y a un sujet derrière la trace, c'est que la trace qui témoigne qu'il y a un sujet qui en est l'auteur, donc, c'est toujours une trace effacée. Une trace qui cherche à se faire oublier. Hein ? Une trace faussement fausse, dit Lacan. Ça, c'est subtil. Une trace qui veut se faire prendre pour une fausse trace. Enfin, une trace qui brouille les pistes. Là, quand on a affaire à ça, à une trace faussement fausse, une trace qui cherche à brouiller les pistes, là il y a l'assurance de la présence du sujet en tant qu'il cherche à se faire oublier du chasseur, en tant qu'il cherche à se faire oublier de l'autre. Hein, chacun se souvient de l'exemple de Freud. Pourquoi me dis-tu que tu vas à Cracovie pour me faire croire que tu vas à Lemberg alors que tu vas bien à Cracovie ? Voilà une trace faussement fausse qui, vous le voyez bien, n'a rien à faire avec les traces effacées de l'éthologie dont un animal est pourtant capable, comme le chat qui recouvre ses excréments, par exemple. Effacement de traces qui n'a rien à voir avec une trace subjective. Parce que le chat, en mettant le sable ou la terre sur ses excréments, ne cherche pas à faire de cette trace une trace faussement fausse. N'est-ce pas ? Il n'essaie pas de vous faire croire qu'il y a un excrément alors qu'il n'y en aurait pas. En conclusion, le signifiant révèle un sujet, mais en effaçant sa trace. Et c'est, en quelque sorte, une autre façon de définir cette dimension essentielle au sujet, qui est d'être un ensemble vide. Le signifiant révèle un sujet, mais il le fait, mais par cette opération, il efface sa trace. Hein, ce que Lacan appelle à d'autres moments l'aphanisis du sujet. Et dès le moment où il est représenté, il disparaît, lui comme sujet. Le sujet, dès lors, est un non-su. Et une trajectoire de vie, c'est en quelque sorte la reconquête de ce non-su. Mais cette reconquête échoue du fait de devoir en passer par la demande pour aboutir. Pourquoi donc Lacan fait valoir que toute demande a toujours ce caractère leurrant, de leurre ? Au fond, dès qu'on doit en passer par la demande, au fond, ça échoue à attraper l'objet. C'est ça l'idée. Dans le mouvement... Où est-ce que j'en suis ? Oui, c'est ça. Dans le mouvement de reconquête du non-su, donc de cette part de lui-même qui échappe au sujet, ce sujet, oui, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Ce sujet donc doit en passer par la demande, c'est-à-dire par le signifiant. C'est-à-dire par le signifiant, et au fond, dès qu'on en passe par le signifiant, on entre dans un registre où toute trace devient faussement fausse, où toute trace devient leurre. Le signifiant, si vous y pensez un instant, c'est ce qui fictionnalise le monde. C'est ce qui fait que, quand on essaie d'écrire le monde, au fond, on en fait une fiction, une petite histoire. Le signifiant fictionnalise le monde et permet que, au fond, la vérité soit menteuse. Permet que ça trompe énormément, si je puis dire. Ainsi, entrer dans la parole, c'est entrer dans le monde de la tromperie, puisque parler, c'est toujours du faire croire. Ce pourquoi Lacan appelait de ses voeux un discours qui ne serait pas du semblant. Ce que Miller a traduit par, au fond, il appelait un discours qui serait du réel. Mais ça résonne avec cette idée que dès que vous entrez dans le discours, dès que vous entrez dans le circuit de la parole, dès que vous passez par le signifiant, au fond, tout ce qui se dit est, relève de la trace faussement fausse. Ainsi, dès que le sujet tente de reconquérir la part de non-su, qui lui appartient, si je puis dire, il doit en passer par la demande, il doit en passer par le signifiant, par les mots, et de ce fait, ce qu'il demande n'est jamais ce qu'il veut. Ça, chacun peut l'observer à tout moment, que ce que le sujet demande, eh bien, c'est jamais ça. C'est jamais tout à fait ça. En tout cas, quand on essaie de lui répondre, quand on essaie de le lui donner, c'est jamais tout à fait ça. Car ce qu'il veut, ou pour mieux dire, là où ça veut, ça ne relève pas du signifiant, mais plutôt de ce que le signifiant cherche à effacer, à savoir la trace du sujet avant qu'il ne se fige en signifiant, avant qu'il ne soit un représenté. Et au fond, cette dimension qui ne relève pas du signifiant, que le signifiant cherche à effacer, cette trace du sujet avant qu'il ne se fige, c'est ce que Lacan a appelé l'objet A. Enfin, en tout cas, l'objet A, c'est le produit de cette opération d'effacement. L'objet A, c'est l'objet de la quête en tant que perdu d'avance, en tant que lieu d'où toute demande peut procéder, à condition de ne jamais l'atteindre. On pourrait faire des tas de commentaires là autour hein, pour essayer de faire résonner ce que ça veut dire. Hein. C'est que dès que vous voulez quelque chose, la difficulté, le problème, le souci, l'émoi dans lequel ça pourra vous mettre à l'occasion, c'est quand vous l'obtenez. C'est quand vous l'obtenez, ça vous fait un problème. Enfin bon. Et au point même qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais, par exemple jamais à terminer au fond un cycle d'études, mais vraiment à la dernière minute, ils ne peuvent pas remettre le mémoire. Parce que conclure est un problème. Obtenir, au fond, c'est une forme d'obtention de l'objet. C'est pour ça qu'une fois qu'on a obtenu son diplôme, il faut absolument se dire que là, vraiment, on en sait moins que quiconque et il faut tout recommencer. Hein. Parce qu'alors, le désir peut repartir. Mais si vous avez l'idée qu'avec votre diplôme, vous avez tout, alors là, c'est fichu. Bon, alors... Donc, j'ai encore combien de temps pour vraiment... 10 minutes. Et c'est pour ça que Lacan fait valoir, je trouvais ça tout à fait précis, précieux aussi pour les cliniciens, que, et pas que pour les cliniciens, pour tout, c'est précieux pour la vie. Il fait valoir qu'au fond, par rapport à la demande à laquelle chacun peut être soumis dans sa vie, qu'une réponse comblante est toujours une réponse angoissante. Que quand on vous demande quelque chose, réfléchissez à deux fois avant de remplir ça, avant de remplir ce sac-là de la demande. Qu'il faut toujours que ça manque un peu pour que quand même ça reste vivant. Une réponse comblante est toujours angoissante. Une demande à laquelle on répond par son comblement fait croire que l'objet est proche, qu'il est là, qu'on l'a dans la main, qu'il est accessible. Et cela produit l'angoisse. Ça, c'est la thèse du séminaire, hein. Ça produit l'angoisse une fois que l'objet est un peu trop proche. Car ce qui mobilise la demande, c'est au contraire de préserver la place de l'objet. Place de l'objet qui, et là vous avez la vérité de la psychanalyse, place de l'objet qui est une place vide. Mais il s'agit d'une place vide très singulière, car elle comporte néanmoins ce que j'appelais la trace du sujet, la trace effacée, mais la trace du sujet, autrement dit, ce qui fait qu'il est lui à nul autre pareil. C'est parce que cette place peut rester vide, enfin en tout cas n'est pas recouverte par l'obtention de quelque chose qui rentre dans le monde du visible, si je puis dire, ou dans le monde du symbole, c'est parce que cette place peut rester vide de ces objets-là, les objets du monde du visible, les objets imaginaires ou les objets symboliques, que le désir peut continuer, peut se poursuivre, et que la demande, au fond, continue alors à exister. Alors la pulsion dans toute cette affaire, eh bien la pulsion, c'est ce qui articule le manque à être du sujet. La pulsion, c'est la place nette, nettoyée par le signifiant. Pardon, j'ai mal lu ma phrase, c'est pas du tout ça. Donc la pulsion, c'est ce qui articule d'une part le manque à être du sujet, c'est-à-dire la place nette nettoyée par le signifiant, c'est ce qui articule donc cette partie-là, le manque à être du sujet, à la demande comme grandée, à la demande de l'autre. Ça, c'est le mathème lacanien. S barré, Poinçon, grandée. L'articulation du S barré, du manque à être du sujet, de cette place du sujet nettoyée par le signifiant, articulée à la demande comme demande de l'autre. La demande comme grandée, c'est ce qu'il voit, ce que Lacan appelle dans le séminaire 4 le désir de la mère, grandée, grand thème. Même s'il dit là le désir de la mère, c'est le désir comme demand, comme on dit en anglais, c'est-à-dire exigence, enfin. La pulsion, c'est ainsi une trajectoire qui répond à une demande comme exigence, exigence de jouissance, mais au fond une trajectoire, pour ceux qui connaissent le schéma, qui fait le tour de l'objet, qui fait le tour de cette place qui doit rester vide, pour retomber assez vite à l'état de moindre tension homéostatique. La pulsion, c'est une affaire qui monte et qui redescend assez vite. Alors, donc, pour terminer cette dernière partie, donc ce fameux mathème S barré Poinçon grand D, qui est le mathème lacanien de la pulsion, qui articule donc le manque à être du sujet et la demande de l'autre. Dans cette leçon, d'ailleurs, Lacan évoque les mathèmes, enfin l'algèbre, mais ça revient au même, les mathèmes comme ceux qui permettent de faire passer très simplement, de manière mécanique, dit-il, sans que vous ayez à le comprendre, quelque chose de très compliqué. Donc les mathèmes, ça sert à faire passer la chose, à faire passer la chose très simplement. Il faut les voir comme quelque chose de mécanique. Voilà, il y a un terme, il y a un autre, il y a une articulation. Déjà, quand on saisit ça, on attrape déjà quelque chose, même si, qu'est-ce que c'est qu'est-ce barré, qu'est-ce que c'est que grandé. Bon. Alors, Lacan propose de lire S barré, point son grandé, comme S barré, coupure de la demande. Ce mathème donc de la pulsion est à lire comme ce qui vient faire coupure à la demande. La pulsion, c'est en quelque sorte le raccourci qui coupe l'élan du chasseur, comme il le dit dans la leçon. La pulsion, c'est un court-circuit qui coupe l'élan du chasseur, parce que en ce lieu où ça veut, la pulsion, c'est ce qui répond par une coupure. À l'inflation du ça veut, par exemple l'inflation de l'érection mâle, répond la déflation de la détumescence. J'évoque ça parce que plus loin dans le séminaire, c'est ce que vous allez trouver comme image. Détumescence, donc, qui est ce qui vient faire coupure à l'exigence pulsionnelle qui, sinon, se présente sans limite. C'est ce qui distingue jouissance de pulsion. La pulsion, au fond, c'est un raccourci, ça part très haut, puis ça descend très bas. Enfin, et ça ne va pas bien loin. La jouissance, par contre, c'est au fond, c'est ce côté sans limite. Donc c'est pour ça que, enfin c'est comme ça en tout cas, comment je le lis, je le comprends, que Lacan dit son matin de la pulsion, il faut le lire, S-barré, coupure de la demande. Coupure de la diment, enfin de coupure de l'exigence de la jouissance. Donc, la pulsion, donc plutôt, c'est ce qui vient faire coupure, plus exactement, c'est ce qui vient tourner autour de l'objet, du fameux objet A, qui se présente donc comme lui-même un objet sectionné, un objet coupé. Et on verra un peu plus loin pourquoi, au fond, finalement, tout ça revient à l'objet perdu freudien. Il ne faut pas essayer de substantialiser l'objet A du côté la coupure du mamelon, la coupure de l'objet fécal, etc. Non. Ce qui compte, c'est la dimension de perte dans l'affaire. Mais je vais suivre mon texte pour pas dire des choses que je vais vous dire plus loin. Donc l'objet A, à ce titre, c'est la partie du corps non identifiable par les coordonnées de l'imaginaire et du symbolique. Ça, je l'ai répété plusieurs fois juste avant. C'est l'objet étrange qui répond à l'exigence de jouissance, qui y répond par quoi ? Par un leurre, un ersatz. Ainsi, à l'érogénéité de la bouche, l'érogénéité de la bouche, la jouissance de la bouche, si vous voulez, répond l'objet oral, qu'est le sein. Mais le sein comme coupé. Tétine, mamelon, n'importe quel ersatz pourra venir à cette place-là. L'heure du sein coupé permettant le tour pulsionnel. À l'érogénéité de la zone anale répond, dit Lacan, le cibale, enfin, ça s'écrit skibale. Le cibale, c'est un mot qui représente, disons, le bâton fécal. Comme coupé. En fait, ce n'est pas la définition exacte, parce que le cibale, c'est, enfin, si les médecins dans la salle, ils pourront mieux définir ça que moi, mais c'est, au fond, la masse anale qui, dans les constipations, reste bloquée, plutôt. Bon. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent là. Mais je pense qu'il faut le comprendre plutôt comme le bâton fécal, parce qu'il parle de section. Et il parle de l'anus comme un sphincter, c'est-à-dire comme un objet qui coupe. Donc, à l'érogénéité de l'anus répond cet objet-là. À quoi se substituent tous les ersatz où le sujet, au fond, trouve à s'identifier comme déchet ou comme agalma. L'importance de la coupure tient à ceci. Que l'ersatz, et c'est une formule, je pense, qu'il y a dans le séminaire, l'ersatz est fondamental. L'ersatz, tous ces objets en question, n'est là que pour désigner la place d'un vide. C'est ce leurre qui fait fonctionner la pulsion, et c'est pourquoi Lacan fait valoir que c'est à partir du fantasme, du névrosé, qu'on a pu établir tout le catalogue des pulsions. Pourquoi ? Bien parce que, au fond, le fantasme du névrosé, c'est ce qui raccorde le manque à être du sujet à cet objet comme ersatz, comme semblant. Qu'on a cru un temps dans le moment de Lacan que le petit A, c'est ce qui désignait le réel par excellence. Et Miller, au fond, a remis les choses à leur place il y a déjà de longues années en expliquant que non, le petit A, c'était pas le réel par excellence, mais c'était au fond quelque chose qui avait un statut mixte de semblant. Et donc, le fantasme, c'est ce qui vous raccorde à la petite histoire que vous vous racontez pour jouir, c'est-à-dire qui vous raccorde à cet ersatz-là. C'est ça l'objet petit A, c'est ce machin, au fond, à quoi... L'histoire, c'est l'ensemble. La petite histoire, la historiette qu'on se raconte, c'est l'articulation du manque à être à l'objet. Et donc, c'est dans cette mesure qu'on a pu donc établir le catalogue des pulsions, parce que ce catalogue, dans la mesure où précisément le fantasme, comme il le dit dans la leçon, se présente d'une façon privilégiée chez névrosé comme pulsion, c'est-à-dire comme coupure de la demande, le fantasme, c'est ce montage qui fait court-circuit à l'exigence pulsionnelle par l'entremise d'un leurre qui fait croire à un accomplissement possible, qui fait croire que vous allez obtenir l'objet. Et au fond, ce que Lacan a nommé une seule fois traversée du fantasme correspond à ce moment de travail dans l'analyse qui est de déconsistance. Enfin, l'analyse vise à faire déconsister le fantasme. Qui fait que le sujet est un peu moins esclave de son fantasme, voire ne l'est plus du tout, au terme de l'analyse. Autrement dit, le fantasme est, par l'analyse, désimaginarisé. C'est-à-dire qu'au fond, se révèle, pour le dire encore autrement, dans l'analyse, se révèle ce que je dis là au niveau de la théorie, que l'objet pita, c'est un semblant, c'est un ersatz, c'est un substitut, que ça vient à la place d'eux. Et que le fantasme, donc, a cette valeur d'une pure illusion. Que, au fond, le sujet s'imagine qu'il va avec ça obtenir l'objet et que, au fond, ça apparaît comme je disais tout à l'heure, ça tourne vite court. Et au fond, le fantasme comme désimaginarisé, eh bien, c'est ce que Lacan appelle, je pensais déjà dans Freud, la construction dans l'analyse du fantasme fondamental. Ce que Freud appelle le fantasme fondamental, c'est au fond le fantasme comme ayant subi l'opération de désimaginarisation par la cure analytique. Et donc ce moment-là équivaut à une sorte de réduction du fantasme à la pulsion. C'est-à-dire, le fantasme, dit Lacan à un autre endroit, se réduit à la pulsion. Alors, pour conclure, je prendrai la phrase de la page 82, parce qu'il me semble qu'elle enserre bien ce dont il s'agit dans la leçon, en tout cas le parcours que Lacan essaie de faire, parce que moi j'ai pris des moments pour essayer d'expliciter la chose. Mais donc dans cette phrase de la page 82, Lacan parle de l'incidence du langage, de l'incidence du signifiant, comme ce qui conduit l'animal parlant, enfin il ne le dit pas comme ça, hein, je paraphrase là. Donc l'incidence du langage, l'incidence du signifiant, est ce qui conduit l'animal parlant à la poursuite de son objet, et là je le cite, sur un autre champ de traces, où cette poursuite elle-même perd sa valeur introductive pour devenir sa propre fin. Vous trouvez cette phrase très, très belle, très explicite aussi. C'est au fond, il y a l'incidence du signifiant, qui fait que nous sommes des animaux parlants, que au fond on est criblé par le langage. Eh bien ça, c'est ce qui, à la poursuite de notre objet, par l'exigence instinctuelle d'abord, à la poursuite de notre objet, nous, animaux parlants, on se retrouve sur un autre champ de traces, une sorte de déviation, où cette poursuite elle-même perd sa valeur introductive. La valeur introductive, c'est la dimension du besoin, guidée par l'instinct, pour devenir sa propre fin, c'est-à-dire la loi du désir. C'est-à-dire la course elle-même devient sa propre fin. C'est ce que j'essaie d'expliciter en disant que, au fond, la demande, c'est ce qui préserve la place du désir. Que de demander, c'est pour ne pas obtenir in fine l'objet. Enfin, de ne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien répondre à la demande, ça ne veut pas dire qu'il faut rien donner. Mais que jamais ce que vous donnerez ne doit venir complètement recouvrir, au fond, ce dont il s'agit dans la demande. Et donc, la propre fin, c'est la loi du désir, qui fait que cette poursuite en sert un vide. Et comme je disais, un vide très particulier. Hein, c'est insuffisant, je pense, de dire un vide, mais c'est pour me faire comprendre. Parce que c'est la formule que Lacan utilise dans cette leçon. Il dit que ça en sert la place d'un vide, l'objet pulsionnel. Dernière citation, à la page 82, le fantasme. Donc le S barré par rapport au petit A prend ici valeur signifiante de l'entrée du sujet dans cette dimension qui le ramène à cette chaîne indéfinie des significations qui s'appelle le destin. On peut lui échapper indéfiniment, mais ce qu'il s'agirait de retrouver, sous-entendu par un travail analytique, c'est justement le départ. Comment le sujet est-il entré dans cette affaire de signifiant ? Et vous voyez comment cette phrase-là résonne avec la dimension du passage au fond du fantasme ou des fantasmes du sujet, des fantasmes qui peuvent présenter dans l'analyse à une réduction, une désimaginarisation de cette dimension. Voilà, je m'arrête là.
Bien, merci beaucoup. Je propose qu'on resserre nos questions à la fin des deux exposés. Et donc je donne tout de suite la parole à Béatrice Brault.
Voilà, on m'entend bien comme ça ? Oui. Donc, je vais déployer ce soir avec vous ce qui tourne autour du chapitre 6 intitulé « Ce qui ne trompe pas » par opposition à ce qui trompe. du chapitre précédent. Je vais notamment m'attarder sur le fait que l'angoisse n'est pas sans objet, un autre ne pas, autre négation. Dans le texte, page 91, Lacan dit « Il est faux de dire que l'angoisse est sans objet ». Ce n'est pas ici formulé comme une négation, mais comme une affirmation fausse, qui a tout son poids. Il y a quelques années, ici même, je me suis efforcée de vous démontrer, à partir du séminaire 4 de Lacan, la relation d'objet, en m'appuyant sur le cas du petit Hans de Freud, que l'angoisse était sans objet, contrairement à la peur. C'était une affirmation vraie, en tant que vérité fictive, et elle le reste. Mais elle est devenue fausse à l'époque du séminaire 10, autre vérité fictive. Pourquoi ? Parce que l'enseignement de Lacan ne se conçoit pas sans une pensée dialectique impliquant des paradoxes, des contradictions, au fil de son long chantier réparti à travers des temps différents de son enseignement. Dans son cours de décembre 2008, le numéro 4, Jacques Alain Miller fait l'éloge d'une logique déprise du principe de contradiction dans l'enseignement de Lacan. Je le cite. « Le moindre morceau d'association libre offre, en analyse, de telles contradictions, à la fois une chose et son contraire, simultanément. Il appartient donc à l'analyste de ne pas se focaliser sur une seule ligne déductive. » Les contradictions ne sont pas aperçues d'emblée. Entre une proposition et son contraire, il y a une distance, un écart, un laps de temps qui reste à parcourir. Un système logique peut parfaitement subsister dans son inconsistance, le temps qu'il faut pour s'en apercevoir. C'est cette inconsistance même qui est refoulée dans le système de l'inconscient. Le respect à avoir pour cette inconsistance suppose que l'on respecte le temps. Se faire à la discipline de l'inconsistance est certainement, nous dit Jacques Alain Miller, une des clés de ce qu'on appelle la formation du psychanalyste. Il ajoute même que nul n'entre ici s'il obéit au principe de contradiction. Tout cela m'évoque le principe de l'interprétation en analyse. N'est-il pas au fond fondé, penser sur le même mode. Tout ça, c'est un peu pour éclairer là où je vais en venir. Vous pouvez suivre, j'ai un petit peu mis quelques phrases qui suit la logique de mon exposé. Donc, tout cela m'évoque le principe de l'interprétation en analyse. Ce qui fait interprétation pour l'analysant à un temps 1 de son analyse, au début de son analyse, par exemple, ne sera plus forcément la même chose à un temps 2, 3, voire en fin d'analyse. Cela ne veut pas dire pour autant que l'interprétation du temps 2 annule celle du temps 1. Elles sont complémentaires en s'additionnant, en se substituant tout au long de l'expérience analytique du sujet et en fonction de ce qui se joue dans la relation transférentielle. Tel analysant peut dire « je ne dirai plus ça aujourd'hui, quelque chose a changé ». Ceci étant, ce qui a été dit l'a été, a été acté à un instant T. Cela ne veut pas dire non plus qu'en fin d'analyse, l'analysant est davantage dans le registre du vrai, plutôt qu'en début, puisque la vérité n'est qu'une fiction. C'est bien pourquoi Lacan dit que la vérité est toujours un peu menteuse. Par contre, le sujet cerne certainement beaucoup plus en fin d'analyse ce qui l'anime, ce qu'il en est de son rapport au réel quant à la jouissance. Tout ça, c'est un peu une autre façon de formuler avec mes mots ce que vient de dire Dominique tout à l'heure. Le séminaire « L'angoisse » et celui de la relation d'objet ne vont donc pas l'un sans l'autre. Jacques Alain Miller dira dans son cours de 2004 « L'angoisse est comme le négatif du séminaire « La relation d'objet » dont le pivot est en effet l'angoisse de castration au centre du cas du petit Hans de Freud. » Lacan, dans le séminaire 4, avec ses références propres au signifiant, au désir, à la demande, emboîte le pas de Freud sur la question de l'angoisse. Voici ce qu'il dit. Donc ça, c'est dans le séminaire 4, hein, page 245-246. C'est ce qu'il dit en commentant à un moment le cas du petit Hans. Une chose est certaine, c'est que devant les chevaux d'angoisse, Ce n'est pas de l'angoisse qu'il éprouve, donc le petit Hans, hein, mais de la peur. La phobie n'est pas du tout l'angoisse. L'angoisse, là, je ne fais que répéter Freud, qu'il a parfaitement articulé, est quelque chose qui est sans objet. Les chevaux sortent de l'angoisse, mais ce qu'ils portent, c'est la peur. La peur concerne toujours quelque chose d'articulable, de nommable, de réel. Ces chevaux peuvent mordre, ils peuvent tomber, ils ont encore bien d'autres propriétés. Dans le conflit névrotique, la peur intervient comme un élément qui défend en avant et contre quelque chose de tout à fait autre, qui est, par nature, sans objet, à savoir l'angoisse. Voilà ce que la phobie nous permet d'articuler. Donc ça, c'est l'époque séminaire 4. Et pourtant, tout le séminaire L'angoisse est justement fait pour expliquer, pour construire que l'angoisse n'est pas sans objet. Lacan va donc opérer une torsion pour arriver à cette contradiction et la dépasser. J'emploie volontairement le terme torsion parce qu'il n'est pas sans évoquer l'illustration de la couverture de ce séminaire, une bande de Möbius, sur laquelle se promènent des insectes. Alors, j'ai juste fait un petit bricolage, c'est pour ceux qui c'est pas forcément évident à comprendre. Vous prenez une bande de papier. Je vais laisser Anne manipuler, mais seulement elle est un peu courte hein, pour la réaliser. Vous la tournez d'un demi-tour et vous l'attachez, et ça, voilà, je l'ai scotché, c'est plus facile, et on obtient cette espèce de 8 que vous voyez de représenter. Voilà. Donc, les insectes peuvent nous donner, les insectes sur, le, hein, sur la couverture, peuvent nous donner l'illusion qu'ils se promènent tout d'abord sur une face, puis ensuite sur son envers, alors qu'il s'agit d'une même et unique surface incluant son envers. Et c'est grâce à la torsion de cette simple bande d'un demi-tour que nous obtenons cet effet. Eh bien, moi, je vais essayer de vous rendre compte des tours et des tours par lesquels Lacan est passé pour obtenir cette torsion qui est la suivante, c'est-à-dire cette torsion de l'angoisse est sans objet à l'angoisse n'est pas sans objet. La première chose à avancer concernant la structure de l'angoisse, nous dit Lacan, page 89, c'est que l'angoisse est encadrée. J'ajoute, ça ne tombe pas du ciel. Lacan éclaire ce point en prenant l'exemple du miroir, de ce qui peut parfois être vu uniquement grâce au miroir. Ceci étant, un miroir ne s'étend pas à l'infini, il a des limites. Ce miroir, dit-il, permet au sujet de voir un point situé dans l'espace qui ne lui est pas perceptible directement. Je ne me vois pas forcément moi-même ou mon œil dans le miroir, même si le miroir m'aide à apercevoir quelque chose que je ne verrais pas autrement. Dans le rêve de l'homme au loup, donc l'homme au loup, un cas clinique de Freud dont on a déjà entendu parler ici, rêve d'angoisse à répétition, le fantasme de l'homme au loup se voit au-delà d'une vitre et par une fenêtre qui s'ouvre. Donc pour rappel, hein, Freud, l'homme au loup acceptera de dessiner ce qu'il voit dans son rêve. Hein, donc c'est un arbre avec des loups dessus. Et donc Lacan compare ce qui est vu dans le rêve de l'homme au loup, c'est-à-dire des loups sur des branches, à certains dessins de schizophrène, comme celui reproduit dans ce séminaire-ci à page 201, qui est un dessin de schizophrène. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un arbre avec des yeux, des branches, et au bout des branches, que se trouve-t-il ? Des signifiants. Donc Lacan va faire cette comparaison. Des loups sur les branches de l'homme au loup et des signifiants de cette schizophrène sur les branches d'arbres. Dans le dessin de cette schizophrène, ce ne sont pas des loups au bout des branches, mais des signifiants. Elle expliquera qu'au-delà des branches de l'arbre, elle a écrit la formule de son secret. « Je suis toujours vu ». Elle n'avait jamais pu dire ceci jusque-là. Lacan met en avant qu'il ne faut pas entendre « vu » uniquement comme un participe passé, mais aussi la vue avec ses deux sens. Subjectif et objectif. La fonction de la vue est le fait d'être une vue. comme on dit, la vue d'un paysage, celle qui est prise comme objet sur une carte postale. Ce que Lacan cherche à accentuer à partir de ces deux exemples et de cette comparaison, c'est que l'horrible, le louche, l'inquiétant, se présente par des lucarnes. C'est encadré que se situe le champ de l'angoisse. Au moment de l'entrée du phénomène inquiétant sur la scène, que ce soit la scène du rêve, que ce soit un dessin, une peinture, que ce soit une scène du quotidien, au moment de l'entrée du phénomène inquiétant sur la scène, nous trouverons toujours un de ces termes, soudain, tout d'un coup, subitement, etc. Lacan nous dit que nous trouverons toujours la scène qui se propose dans sa dimension propre et qui permet que surgisse ce qui, dans le monde, ne peut pas se dire. Lacan fait aussi une comparaison avec le lever de rideau au théâtre. Qu'attendons-nous toujours au moment du lever de rideau au théâtre ? Sinon, ce court moment d'angoisse, vite éteint. Sans ce temps introductif des trois coups, vite et l'idée de l'angoisse, rien ne saurait prendre sa valeur de ce qui se déterminera par la suite, comme tragique ou comique. Revenons sur ce qui ne peut pas se dire. Comme cette schizophrène qui n'avait pas pu dire ça avant de la voir dessinée comme ça. Il s'agit d'entendre un pouvoir que traduit mal le permis ou le pas permis. Pouvoir se rapporte ici à une dimension beaucoup plus originelle. C'est même, dit Lacan, parce que cela ne se peut pas qu'on va tout de même pouvoir. Là agit le forçage, dit Lacan, la dimension de détente que constitue l'action dramatique à proprement parler. Pour que cette détente, ce forçage ait lieu, l'attente et la préparation, l'état d'alerte ne sont pas indispensables pour l'encadrement de l'angoisse, puisque cet encadrement est toujours déjà là. Ceci étant, l'attente peut parfois servir dans certains cas à encadrer l'angoisse, mais elle n'est pas indispensable. Là, on peut penser par exemple l'attente d'un résultat d'un examen, voilà. L'angoisse, c'est autre chose que l'attente. L'angoisse, c'est dit Lacan, page 91, quand apparaît dans cet encadrement ce qui était déjà là, beaucoup plus près, à la maison, Heim, comme on dit, c'est l'hôte. Mais, précise Lacan, il s'agit d'un hôte inconnu qui apparaît de façon inopinée, d'où l'inquiétante étrangeté de la chose. Pourtant, dit Lacan, cet hôte est déjà quelqu'un de bien travaillé par l'attente, ou encore cet hôte, c'est déjà ce qui était passé dans l'hostile. Cet hôte, ce n'est pas finalement l'habitant de la maison, sinon il n'y aurait pas cet effet-là. C'est, dit-il, de l'hostile amadoué, apaisé, admis, mais cet hôte n'est jamais passé par les détours, les tamis de la reconnaissance signifiante. Nous pouvons dire aussi c'est un hôte secret, clandestin, puisque c'est une traduction possible de « heimlich ». C'est alors le surgissement du secret, du clandestin, du non reconnu, le surgissement donc du secret, du clandestin, du non reconnu, dans le cadre qui est le phénomène de l'angoisse, ce surgissement dans le cadre. C'est pourquoi Lacan dira, à partir du moment où nous repérons le surgissement de quelque chose dans un cadre, il est faux de dire que l'angoisse est sans objet. Nous percevons bien quand même que l'angoisse a alors une autre sorte d'objet que l'objet appréhendé et structuré par ce que nous appelons la coupure signifiante, le « c'est ça », le « symbolisé », le « reconnu ». Autrement dit, dans la structure du langage, chez l'être parlant, il y a quelque chose qui ne peut pas être réduit au signifiant et qui est donc assimilé au corps comme vivant, avec un reste invisible. Parce que l'angoisse a à voir avec le corps, ça prend au corps, comme on dit souvent. Quelqu'un est angoissé, voilà, ça lui prend au corps, ça lui prend dans le corps, sur le corps. Enfin, des formules qu'on entend assez souvent. Dans l'expérience analytique d'une cure, après tout un long temps où l'analysant historise sa vie, passe beaucoup de son temps, des semaines, des années, à mettre en mots, analyser, interpréter avec le support de son analyste, il peut lui arriver, s'il poursuit sa cure au-delà, d'en passer à autre chose. Il fait l'expérience, par exemple, de ce qu'il en est du silence et de la présence du corps vivant de l'analyste qui se tait. Nous disions l'autre fois que c'est bien la présence de l'autre qui avait à voir avec l'angoisse et non l'absence. Les signifiants, les mots, le blabla se font rares. Cette expérience n'est donc pas sans angoisse. Les mots viennent à manquer pour dire la chose, ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se jouit. Cette scène qui se propose alors à l'analysant en présence du corps de l'analyste, dans sa dimension propre, permet que surgisse ce qui ne peut pas se dire ou ce qui n'a pas pu se dire jusqu'ici. C'est donc uniquement vers la voie du signifiant, dit Lacan, que l'angoisse peut être dite sans objet. Contrairement à la phobie, où l'objet réel de la peur est nommable et articulable. Car au temps du séminaire 4, le réel est encore quelque chose, le réel est assimilé à de l'articulable et à du nommable. Dans le séminaire L'angoisse, Lacan rend compte que le traitement de l'angoisse par la phobie n'abolit pas entièrement l'angoisse. Il y a un reste, un résidu, qu'il qualifie de flou. Il en fait donc l'objet A. Le chemin du séminaire L'angoisse, dit Jacques Alain Miller, est un chemin difficile. C'est celui d'une désymbolisation de l'objet, d'une désignifiantisation de l'objet, corrélatif d'une désimaginarisation. Pour construire son objet A, ce flou, ce reste invisible, Lacan va élaborer une nouvelle structure du manque, puisque ça a à voir avec le manque, ce reste invisible. Il va construire une structure non signifiante du manque, qui passera par la topologie et par une mise en scène du corps avec ses particularités anatomiques, une fois franchie la signifiance du phallus. J'explique. Dans le séminaire 4, le rapport au manque phallique, le moins phi, qu'il représente par le moins phi que j'ai écrit au tableau, représentait la castration imaginaire et symbolique. Lacan parlait bien à cette époque du phallus en tant que signifiant. Eh bien, dans le séminaire L'angoisse, ce moins phi, c'est un phallus désignifiantisé et désimaginarisé. C'est ce que Lacan appelait avant le pénis réel. Chez le petit Hans, on en a longuement parlé là déjà, les années passées, ce qui passait inaperçu, invisible, au profit de l'objet de sa phobie des chevaux, des signifiants, des mythes qui l'accompagnaient, c'est bien le pénis réel qui passait à la trappe, si je puis dire. C'est-à-dire cette maturation réelle de son pénis, ses érections et ses détumescences. Jacques Alain Miller dira « Ce qui devient central dans le séminaire L'angoisse, c'est le phallus organe, par opposition au phallus signifiant. Ce n'est plus le moins phi de la castration imaginaire et symbolique, mais le moins phi de l'organe. » Dans le cas du petit Hans, l'objet de sa phobie, ce sont bien les chevaux, mais l'objet de son angoisse réelle, c'est son pénis réel, cet organe du corps vivant qui subit des transformations qui l'angoissent. Sa phobie l'aide pour autant à lutter en avant contre cette angoisse, mais sans y parvenir pleinement. Lacan introduit de la sorte quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à Freud. Le moins phi est en fait non plus le symbole de la castration, mais le moins phi met en avant une propriété anatomique de l'organe mâle, qui est à l'opposé de son imaginarisation de puissance, puisqu'il s'agit de la détumescence qui frappe cet organe au moment de sa jouissance. Pour conclure, ce qui ne trompe pas, c'est ce reste réel perceptible du côté du corps vivant. Une crise d'angoisse, c'est bien du côté du vivant. Ça ne passe pas inaperçu par le sujet, au niveau du corps, de ses effets. Ce reste réel, c'est la jouissance qui ne se laisse pas capturer par le signifiant. C'est la jouissance irréductible au principe de plaisir. C'est de la jouissance en tant que l'imaginaire et le symbolique ne peuvent jamais que tourner autour. Cette jouissance irréductible au principe de plaisir est donc connectée au déplaisir dont l'affect en est l'angoisse. Voilà, je m'arrêterai là.
Bien, merci beaucoup Béatrice Pro. Je vais peut-être essayer d'adresser une ou l'autre question pendant que vous réfléchissez à vos questions à chacun des conférenciers. Mais tout d'abord, j'avais envie de reprendre cette dimension expérimentale de laquelle l'autre et donc le sujet sont voués à passer à la trappe dans la démarche expérimentale scientifique classique. Et ça m'évoquait, Dominique, qu'en fait, on parle même en expérimentation à ce moment-là, lorsqu'il y a des perturbations dues au dispositif. C'est pour montrer, comme ça va loin dans le signifiant, on parle du bruit de la mesure. C'est-à-dire que ce qui se perturbe, il faut bien l'entendre, c'est la mesure, donc c'est l'outillage, ce n'est pas, on n'est pas encore à l'expérimentateur. C'est quand même extrêmement intéressant, ça. Donc, ça montre combien l'expérimentateur, au fond, ne fait pas partie, a priori, de ce qui pourrait influencer l'expérience, et c'est ce paradigme qui voudrait une toute puissance de l'objectivité et surtout évacuer la subjectivité dans l'expérience. Je trouvais aussi intéressant cette question de l'anthropomorphisme et au fond, voilà, qu'est-ce qui différencierait une épinoche d'un être humain parlant, et comment à nouveau toute la science aborde les questions des animaux qui pourraient nous apprendre quelque chose sur l'être humain. C'est par exemple tout le domaine des recherches sur le langage. Et à nouveau, je me dis en t'écoutant parler aujourd'hui que on est quand même très fort dans, me semble-t-il, en tout cas à certains moments, notamment lorsqu'on pose par exemple que des singes particulièrement évolués ont accès au langage, ont accès au symbolisme. Je trouve qu'il faut vraiment être extrêmement prudent et de voir en quelle manière nous ne projetons pas notre anthropomorphisme sur ces animaux. Enfin, c'est vraiment une question qui me semble centrale. Dans ces questions-là, vous savez que les singes peuvent combiner des symboles. Est-ce que pour autant ils ont accès au langage? C'est toute la question. Faire des combinaisons n'est pas forcément avoir un inconscient. Alors, je voulais aussi revenir, ça c'était plutôt une question, sur la question de la différence entre le signe et le signifiant. Pour le signe, tu as souligné que ça ne représente que quelque chose pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut donc dire que la particularité du signe pour ce quelqu'un, c'est d'être non équivoque, là où le signifiant garantit toujours l'équivocité? Alors, pour Béatrice Bro, au fond, ces expressions « soudain, tout d'un coup » qui apparaissent lorsque l'angoisse apparaît dans le cadre, apparaît ce qui ne peut pas se dire. On peut rattacher ça avec le surgissement, je suppose, de quelque chose de réel. C'était peut-être un peu développer cette question-là. Et je me disais aussi que tout ce voyage entre la peur et l'angoisse, est-ce qu'on peut dire également que l'angoisse, finalement, et c'est important dans une cure quand on reçoit quelqu'un, pardon, que la peur est une façon de traiter l'angoisse, et donc qu'il s'agit de faire attention si on touche à ça. Je pense notamment aux thérapies comportementales qui tendraient à gommer par toute une série de techniques cette peur de telle chose, de tel objet, et alors tout ce qui peut s'en suivre.
Je vais... Donc vous préparez vos questions. Mais bon, d'abord, merci à Anne pour sa reprise de nos interventions et les ponctuations que tu donnes, les questions, je trouve, permettent vraiment de prolonger le propos. Alors d'abord, c'est très joli, le bruit de la mesure. Hein, c'est très joli. Alors, il faut s'entendre sur ce que nous disons, au fond, de la science. Il ne s'agit pas de remettre en cause la science. Il s'agit de faire entendre que la science fonctionne à condition de forclore le sujet. C'est ça l'idée de Lacan. C'est ce qu'il appelle le discours de la science. C'est, au fond, une affaire qui est mise en place de telle façon qu'elle peut fonctionner sans sujet. Et donc, on peut s'apercevoir que le discours de la science est complètement acéphale. Et enfin, on peut s'apercevoir, on s'en aperçoit tous les jours, hein, que ça tourne tout seul, qu'il n'y a absolument aucune manduction, c'est un terme qui est dans la leçon 4, ça. Non, je ne sais plus. Il n'y a aucune manduction d'un dieu obscur sur les choses de la science. Ça tourne tout seul, c'est-à-dire que ça permet de faire des tas de choses. Aujourd'hui, par exemple, on peut sans problème, avec quelques manipulations, on peut passer d'un sexe à l'autre. Hein. Je prends cet exemple parce que ça m'a frappé. C'est repris par Jean-Pierre Defieux, ce fait divers que vous avez lu peut-être dans la presse, mais qui montre bien ce côté de la science qui fonctionne en roue libre et de manière complètement acéphale. De comment on peut changer de sexe, et donc comme des sujets qui ne se sentent pas bien dans leur sexe et qui se sentent de l'autre sexe, eh bien, il y a comme ça donc un père de famille qui maintenant souhaite donc devenir femme, et ça pose une question juridique. Ça se passe en France, pas en Belgique. Ça se passe en France, et donc en France, on ne peut pas, les homosexuels entre eux ne peuvent pas se marier, si je me trompe. Ils peuvent se paxer, mais ils ne peuvent pas se marier. Or là, il s'agit d'un couple marié. Le monsieur en question, donc père de famille, est marié avec madame, et donc va devenir femme prochainement. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment on va régler ça juridiquement, puisque dès le moment où il sera devenu femme, d'une part, vous aurez affaire à un couple homosexuel marié, ce qui est juridiquement impossible. Et d'autre part, ce couple aura des enfants légitimes. Et ça va être un casse-tête pour les juristes, évidemment, de dénouer ces nœuds que produise la science. D'après ce que Jean-Pierre Defieux semblait dire dans son papier, ça déboucherait sans doute plutôt sur un non-lieu, ce qui va produire une jurisprudence qui ouvre une nouvelle... Enfin, on voit bien le forçage au fond de la science qui ouvre une nouvelle voie possible à la fois de maternité, de paternité, enfin de nouveaux conjugaux, de nouveaux nouages dans le conjugaux qui permettent de nouvelles opérations de la filiation qui vont donner des effets certainement tout à fait intéressants. Enfin, ça c'est pour commenter la dimension donc du bruit dans la mesure, du bruit qu'on veut effacer dans la mesure. Tu disais ça va très loin. Et au fond, ça va, au fond, jusque... ça touche à ce point qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la science, mais de saisir que la science fonctionne de manière acéphale, que dès le moment où on fait jouer les petites lettres, parce que Lacan lui-même a essayé de rendre la psychanalyse, au fond, plus scientifique, enfin, en tout cas, d'approcher ça avec sa mise en mathème. Bon. Donc là, on fait jouer des petites lettres qui sont quand même très très compliquées à définir et qui d'ailleurs, au fil de son enseignement, changent. Hein, le terme même d'objet, ou simplement la lettre petit a, qui représente l'autre comme semblable au début de son enseignement, représente tout autre chose à la fin. Donc bon, tout ça bouge beaucoup. Alors, à propos des animaux domestiques, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, tu as évoqué les animaux domestiques. J'ajouterais que moi, ça m'a frappé quand je l'ai lu, mais maintenant que j'ai un animal domestique à la maison, je vois bien qu'en effet, c'est assez juste. Lacan fait remarquer dans un de ses premiers séminaires que, au fond, même chez l'animal, une fois qu'il devient animal domestique, c'est-à-dire un animal à qui on parle, eh bien, quand on lui parle, on injecte la cause du désir. Et que ça produit des effets, je ne vais pas dire névrotisants, mais enfin, ça produit des effets de subjectivation singuliers chez l'animal. Il fait remarquer ça au début de ses séminaires. J'aime bien cette expression de « on y introduit la cause du désir ». Et c'est vrai que les chiens qui vont mourir sur la tombe de leur maître, par exemple, indiquent bien qu'il y a quelque chose. Enfin, peut-être les éthologistes, ceux qui font de l'éthologie pourront donner d'autres hypothèses, mais ça me semble convaincant. Qu'au fond, le signifiant, bien sûr, c'est plus ou moins réservé à l'homme, à l'homme en tant que par-l'être, mais qu'au fond, le signifiant percute aussi le corps d'autres animaux que les malparlants. Alors, dernier point, c'était donc la différence entre signe et signifiant. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Hein. Au fond, le signe représente quelque chose pour quelqu'un. C'est ce qui fait que le signe est non équivoque, mais il est non équivoque seulement pour le quelqu'un pour qui ça représente quelque chose. Hein. C'est-à-dire, quand je fais ça veut dire on va démarrer dans... Enfin, je sais pas, non, je vais t'en parler autre chose, mais enfin, on s'est mis d'accord sur le fait que, je sais pas, moi, quand je fais ça, ça veut dire qu'on doit bientôt arrêter. On se comprend entre nous, mais ça peut vouloir dire plein de choses pour bon. Donc, un signe entre nous représente quelque chose pour une. Et c'est, a priori, non équivoque. Alors que le signifiant, qui représente, non pas quelque chose, mais qui représente un sujet pour un autre signifiant, ça, évidemment, c'est une toute autre dimension, puisque c'est cette formule, quand même, qui est une. Enfin, qu'on répète beaucoup, enfin, mais elle est extrêmement profonde. D'abord, moi, ça m'a toujours frappé le fait que Lacan ne commence pas par définir le sujet. C'est pas le sujet est, c'est le signifiant est. Est représenté par. Non, pardon. Le signifiant représente. Qu'est-ce qu'un signifiant? C'est ce qu'il représente. Voilà. Et donc ce qui est important dans la formule, c'est bien sûr que le sujet est représenté par un signifiant, mais qu'il l'est pour un autre signifiant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est représenté par un signifiant, c'est-à-dire par ce que produit une trace faussement fausse, eh bien, ça renvoie à une multitude de significations. C'est ça que veut dire. Un signifiant pour un autre signifiant. C'est dès le moment où c'est un signifiant et non pas un signe, il y a un « qu'est-ce que ça veut dire ?» Tu me dis que je suis ceci, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et alors ça renvoie à, comme tu disais très bien, l'équivocité du langage. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as voulu dire, hein, etc. Enfin, et toutes les embrouilles, disons, du langage.
C'est le fameux exemple que Lacan dit quelque part entre un mari et son épouse à table, passe-moi le sel, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire autour de cette question-là, par exemple.
Voilà. Passe-moi le sel. Je te passe le micro.
Oui.
Merci. Alors, donc ta première question, ça tournait autour... l'angoisse, donc, c'est le surgissement de quelque chose. Tu me demandais si c'était, au fond, le surgissement de quelque chose de réel, hein, c'est ça? Voilà. Donc, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que l'angoisse apparaît. Enfin, je l'ai dit de différentes. Je l'ai déplié de 3-4 façons un petit peu différentes. Là, je le reprends comme ça. L'angoisse apparaît lorsque quelque chose ne peut pas se dire sur le plan avec des mots, sur le niveau signifiant, sur le plan imaginaire et symbolique. Et quand Lacan commente, quand on est du côté du « ne peut pas se dire », ça veut dire que ben justement, on va y aller, et là, il y a le forçage. Et à partir du moment où il y a cette dimension du forçage, au-delà de ce qui est imaginaire et symbolique, bien sûr, il y a quelque chose de la dimension du réel qui apparaît. Voilà, quelque chose d'un franchissement, d'un au-delà qui... Voilà, oui, ça a à voir tout à fait avec la question du réel, effectivement.
Alors, ta deuxième question, autour de l'angoisse, donc la peur, la phobie est une façon de traiter l'angoisse. Ben oui, bien sûr. Avec ce que j'ai démontré là, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça quand je dis que l'enseignement de Lacan est dialectique, ça ne veut pas dire que maintenant, si on reçoit, je ne sais pas, quelqu'un qui vient, qui est phobique, un enfant, un adulte, un adolescent, ah non, 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 on ne va rien faire, gardez votre phobie, retournez chez vous, c'est très bien comme ça. Hein, ça, c'est, voilà, ça ce serait le piège hein, dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Parce que parfois, il y a des enfants ou des adultes qui ont une phobie terrible qui les empêche de sortir, qui les empêche de... Voilà. C'est comment... C'est très bien d'en passer par ce qu'a fait Freud, par ce que reprend Lacan lorsqu'il déplie le cas du petit Hans dans le séminaire 4. Mais sauf que le constat qu'il fait, que la phobie ne va pas résorber totalement ce qu'il en est de l'angoisse. Ça vient plutôt aider à lutter contre. C'est comment plutôt aider le sujet à mettre en mots pour amoindrir et rendre plus supportable ce symptôme de la phobie pour que la vie lui soit moins invalidante. Mais ceci dit, enfin, moi je pense au cas d'un petit garçon, moi je trouve ça très mignon. Il avait d'abord peur des géants. Bon, des géants, c'est vrai. Et c'était pas très opérant, sa phobie, parce que les géants, bon, par exemple, dans la ville, par ici, on les voit pas souvent quand même sortir. Alors du coup, il a eu une phobie des pigeons. Bon, là, les pigeons, là, déjà, ils sont plus fréquents, ici. Voilà. Et il y a eu tout un travail, finalement, d'élaborer autour de la peur des pigeons pour que, finalement, il en arrive à dire qu'il avait toujours cette peur des pigeons, mais finalement... C'est les pigeons qu'on finit par avoir un peu plus peur de lui, donc laissons-le tranquille. Vaut mieux faire demi-tour, enfin voilà, disait sa maman, vaut mieux faire demi-tour, passer à côté, il faudrait pas qu'on effraie les pigeons. Voilà. Et voilà, et il se débrouille avec ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un travail d'élaboration. Enfin, je dis ça parce que c'est courant finalement, ces histoires de peur des pigeons, peur des... Enfin bon, je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma pratique, c'est assez courant. Donc, mais comment aider, mettre en mots, utiliser les signifiants, mais on se rend bien compte que ça a son utilité parce que ça désangoisse en même temps, mais pas complètement. Pas complètement. On ne va pas complètement désangoisser, parce que en même temps, si on désangoisse complètement, je veux dire, l'angoisse a bien sa fonction aussi, elle a une fonction. Elle a une fonction, on en a parlé déjà plusieurs fois ici. L'angoisse, ça permet aussi de travailler, ça permet d'avancer dans la vie, ça permet de se poser des questions. Voilà.
Alors, je vais proposer un échange de micros et je vais passer dans la salle pour vos questions. Il y avait une question ici tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un réagir.
Donc, pendant que vous.
C'était juste une précision par rapport à ce fait divers qui est quand même très intéressant du couple marié. Je voulais juste vous préciser qu'ils ont déjà des enfants.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Je me suis mal exprimé. Voilà. Donc, en effet, ils ont déjà des enfants. Et donc,
un des problèmes des législateurs était de savoir que faire de ce couple.
Oui, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il était père de famille.
Oui,
hein, en effet. Et donc, oui, les enfants sont déjà là. Il a... Une fois, et donc ça, une fois que l'opération aura eu lieu, ça deviendra un couple homosexuel avec enfants. Les enfants sont déjà faits.
Oui. Mais les enfants auront eu un père et deux mères. Enfin, un père, une mère.
Et les enfants auront deux mères. Enfin, en tout cas, auront deux femmes. Oui. Et voilà. Les enfants sont, si j'ai bien compris, c'est pas des tout jeunes enfants, c'est des enfants déjà d'un certain âge et ils semblent prendre, au fond, ce qui se produit comme une évolution. En tout cas, qu'ils peuvent saisir de ce qui se produit pour leur père, et de la même façon, il semble que pour l'épouse, elle a l'idée que, en effet, depuis toujours, elle se sent mieux avec une femme, et que donc, enfin bon, il y a semble-t-il une trajectoire où chacun assume au fond ce qui se produit comme déjà inscrit dans l'organisation familiale. Ça ne semble pas faire de drame particulier, enfin pour ce que j'en ai entendu. Hein. Oui, j'allais ajouter à ce que Béatrice a amené sur la phobie que, enfin tu l'as d'ailleurs très bien dit, mais ça éclaire l'exemple que tu donnes avec les pigeons, c'est qu'au fond, l'opération phobique, c'est de faire de l'objet insignifiant. C'est de transformer un objet en signifiant. Et dès le moment où on transforme l'objet, ce qu'on appelle l'objet phobique, c'est un objet qui est transformé en signifiant. Dès le moment où ça devient insignifiant, comme on disait tout à l'heure à propos de l'équivocité du langage, c'est que dès le moment où ça devient insignifiant, on peut raconter des histoires, on peut transformer les significations et faire de ce qui était une angoisse informe, au fond... Avec ce signifiant pigeon, eh bien, on peut. Il n'y a plus qu'à éviter.
La différence. Enfin, je pense que ta question par derrière était peut-être celle-ci. Donc, c'est faire quelque chose, faire avec la phobie quelque chose par rapport à l'angoisse, mais ne pas vouloir la faire, l'anéantir, l'annuler, comme on peut rencontrer dans certaines autres thérapies. Voilà. Ou voilà, on va. Bon bah. Tout ce qui est un peu thérapie comportementaliste, il faut vraiment, plus jamais ça, ça ne doit plus apparaître. Bon, puis souvent, j'ai déjà reçu, moi, des gens qui ont fait des... Ils sont non, ben, ça s'est déplacé sur autre chose. Ils sont devenus phobiques d'autre chose.
Donc ça a sa logique.
Voilà, voilà, tout à fait.
Éradiquer l'angoisse, c'est effacer la dimension du sujet.
Voilà, c'est ça.
Ça a sa logique que
oui,
ce
oui,
soit comme
tout
ça.
Tout à fait.
Alors,
oui.
Nous, il faut arriver à expliquer, au fond, voilà. tu le reprends, au fond, en quoi, en effet... il n'y a pas que dans le traitement de la phobie.
Non,
toute cure analytique n'évacue pas complètement la dimension de l'angoisse, voire cherche à la produire dans certains cas. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que un obsessionnel un peu trop constipé, je vais dire, eh bien, il va s'agir de l'angoisser un peu pour mobiliser un peu la dimension du désir. Mm-hmm. Sinon, on n'arrive à rien. Mm-hmm. Et maintenir un certain niveau d'angoisse fait partie de l'opération de la psychanalyse. Mm-hmm. Bon, il faut s'entendre.
Oui.
Mais parce que l'angoisse, précisément, est l'indice de ce qui nous approche au fond de l'objet qui est en jeu dans une cure analytique.
Mmh, c'est une question peut-être pas très... mais en fait, je me demande où on tire vraiment le trait entre l'angoisse et la phobie. Lorsque, par exemple, un enfant doit aller à l'école et donc est angoissé et que ça se développe donc en phobie scolaire, par exemple.
J'ai pas compris.
Où on tire vraiment le trait entre angoisse et phobie, dans le sens où...
On tire le trait entre angoisse et phobie.
Oui. Parce que, par exemple, voilà, j'ai un enfant qui a au début peur d'aller à l'école, mais petit à petit, ça développe vraiment une phobie. Donc là, on parle de phobie de scolarité à ce moment-là. Donc là, j'arrive pas vraiment à tirer le trait, donc... faire la différence...
Donc, ouais, je peux essayer de vous répondre quelque chose. Donc, l'enfant est angoissé, d'accord. On se rend compte de l'angoisse chez cet enfant parce qu'il développe ce que vous appelez sa phobie d'aller à l'école. Enfin, je dis ça très, très simplement comme ça. Voilà. Pour pouvoir manifester qu'il est angoissé par rapport à quelque chose dont on ne sait pas, pour lui, c'est pas les pigeons, c'est pas la peur du noir, c'est pas, enfin, je sais pas, je pourrais, voilà, c'est pas, c'est la peur d'aller à l'école, ou la peur de l'école, ou de ce qui se passe à l'école, enfin, on ne sait pas, ça touche à l'école, mais on ne sait pas quoi.
Donc pour prolonger la réponse que Marie propose, au fond, on pourrait dire que le trait à tirer entre angoisse et phobie, c'est que la phobie est une sorte de formalisation de l'angoisse.
Voilà, ça permet de dire quelque chose déjà de l'angoisse.
Ce qu'on appelle angoisse, c'est au fond ce qui est diffus, ce qui ne se saisit pas, mais on voit bien qu'il y a cet affect au fond qui ne trompe pas. Hein. Et dès le moment où ça se transforme en phobie, au fond, c'est une formalisation de la chose. Ouais. C'est pour ça qu'on invite l'enfant à parler au fond de... Et peut-être que ce qu'on appelle phobie scolaire va prendre dans son cas une dimension tout à fait particulière, qui lui est singulière, qui va permettre de situer, au fond, comment lui, il parvient à mettre des mots là-dessus, comme on dit. Mm-hmm. Et c'est, au fond, dès le moment où il met des mots sur la chose, si tant est qu'il réalise cette opération, hein, parce que tout ce qui est angoisse n'est pas à transformer en phobie, au fond, ne se transforme pas en phobie nécessairement. Ça se transforme en phobie lorsque... Il y a des mots qui viennent... il y a un signifiant électif, je dirais, qui vient focaliser les significations de l'angoisse. Mais ce qui est important et intéressant, c'est que dès qu'on a ce signifiant, enfin dès qu'on a ce champ de signification autour de quoi ça tourne, alors on peut commencer à en faire quelque chose, à transformer la chose. C'est ce que démontre Lacan avec le cas du petit Hans, qui donc a peur du cheval, mais après tout ce qu'il va raconter comme histoire à son père.
Tous ces mythes qu'il mord, qu'il
voilà,
tombe,
c'est mille et une choses.
De ceux qui ont ceci, puis de ceux qui ont. Puis voilà, et puis.
Mille et une transformations. Voilà.
Oui, sur cette question du symptôme phobique, il ne faut pas nécessairement être trop optimiste, parce que si. Dans le cas d'une phobie qui ne s'aide pas, parce qu'on sait bien que c'est une série de phobies qui se guérissent toutes seules, et où on a tout intérêt à n'aller déranger personne, il y a aussi le cas des phobies, celle du petit Hans, c'est quand même pas aussi quelque chose qui tourne tout seul. Qui tourne tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là une homéostase pour le petit Hans qui a peur plutôt que d'être angoissé, il a réussi, tout ça. C'est qu'il faut quand même bien se dire que dans beaucoup de phobies, dans beaucoup de symptômes, mieux vaut un symptôme que rien, bien entendu, mais c'est quand même le signe de, c'est, la phobie, c'est quand même une formalisation de l'angoisse, mais une formalisation ratée. Hein? Enfin, dans beaucoup de cas, si c'est un symptôme invalidant, etc., il y a quelque chose de la formalisation qui ne fonctionne pas. Et il faut quand même bien se dire, toujours, me semble-t-il, que il ne s'agit pas de jouer au médecin en se demandant s'il faut guérir ou pas. Mais se demander qu'effectivement, se dire que si la phobie est apparue, c'est qu'il s'est passé quelque chose ailleurs. Et que donc, le sujet vit quelque chose de difficile, puisque quelque chose de nouveau est apparu dans son monde. Il y a un passage dans le séminaire, j'ai toujours aimé, page 89. Et qui est. C'est un texte de Lacan inédit, qu'on n'a toujours pas, qu'on n'aura peut-être jamais, et qui explique bien les choses en termes de ce qui peut se passer quand il y a comme ça le surgissement d'un symptôme. C'est la question du tableau dans la fenêtre. Lacan fait référence à une intervention à des journées provinciales, dont on n'a strictement aucun écho. Il s'en plaint d'ailleurs parce qu'il attend son texte, donc il a fait une improvisation brillante comme d'habitude, il n'a pas le texte, il l'attend, et il dit voilà, les gens peuvent se rappeler la métaphore dont je me suis servi, celle d'un tableau qui vient se placer dans l'encadrement d'une fenêtre. Technique absurde sans doute s'il s'agit de mieux voir ce qui est sur le tableau. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quel que soit le charme de ce qui est peint sur la toile, il s'agit de ne pas voir ce qui se voit par la fenêtre. Si dans la page d'après, comme vous le disiez, il prend l'exemple du rideau de théâtre qui se lève, ça c'est évidemment un petit jeu avec l'angoisse, le rideau de théâtre qui se lève, parce que le rideau de théâtre, ça peut aussi être un tableau, ça se lève, on va voir quelque chose qui se passe. Et donc ça c'est un moment, on prédit que c'est un moment d'angoisse, mais un moment d'angoisse excitant. Mais dans le cas de l'apparition d'un symptôme ou d'une phobie, ce tableau dans l'encadrement de la fenêtre qui tombe, qui se lève, qui se trouve, il faut bien se dire que c'est un... Même si le sujet essaye de redessiner quelque chose sous les lambeaux de la toile ou de mettre autre chose, il s'est passé quelque chose. Et donc... C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, me semble-t-il, quand on voit, pour répondre à votre question, quand on voit par exemple d'un symptôme, il ne faut pas nécessairement se focaliser sur l'école, l'instituteur, etc. Oui, bien sûr, il faut l'entendre, mais il faut bien se dire qu'il y a quelque chose ailleurs dont vous n'avez aucune idée, qui se passe. Et ça, c'est la question. Parce que on dit que l'angoisse est encadrée, effectivement, il s'est passé quelque chose qui a fait surgir, qui projette le sujet dans une dimension nouvelle.
Pour le dire autrement, ce que j'appelais la formalisation de la phobie, c'est la réponse. Et au fond, il faut savoir à quelle question cette réponse répond. Et dans de nombreux cas, enfin, parce que je disais, on va trouver chaque fois quelque chose de singulier, en effet, mais enfin, dans de nombreux cas, ça tourne autour de l'angoisse de castration. Dans le même cas, on va retrouver quelque chose, enfin, de cacher dans les phobies de l'enfant de l'âge du petit Hans, c'est parce que je pense à plusieurs cas de ce type, on retrouve bon an mal an toujours la question de l'angoisse de castration qui surgit d'une façon ou d'une autre pour l'enfant. C'est-à-dire, de quoi va-t-on le priver enfin.
Je pense qu'on peut en rester là pour les questions. Je voulais juste attirer votre attention encore sur deux choses. Vous savez que les émissions sont enregistrées. Les trois premières de cette fin d'année seront mises en ligne pour Noël. On va faire la mise en ligne ensemble parce que certains d'entre vous m'ont posé la question. Donc voilà, à Noël, tout sera sur le site de la radio de Mons et je vous enverrai l'information par email. Et puis attirer votre attention aussi sur quelque chose que je n'ai pas pris le temps de présenter en ouvrant le cycle de cette année. La fois prochaine, nous accueillons Véronique Mariage et Monique Kusnirek. Monique Kusnirek, c'est la deuxième fois qu'elle nous rejoint. Et nous avons aussi la chance de recevoir Laura Petrosino qui viendra pour la première fois nous rejoindre. Et ça, ce sera au mois de février, ce qui fait que l'équipe s'agrandit. Voilà, merci à vous et donc on se retrouve le 19 décembre.